Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, merci Léana qu'on retrouvera à 17h45 pour Info Soir. Bienvenue dans une semaine formidable. Autour de moi à cette table, Pierre Forest, Olivier Degnaud, Meimoana Mafutuna et Romain Bonnet. J'espère que j'ai bien prononcé les noms prénoms. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Léo.
Et merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi aux nouveaux qui nous rejoignent au fur et à mesure de la saison. Romain Bonnet qui était le petit nouveau d'il y a deux semaines. On rappelle, kiné du sport.
Merci de me rappeler encore une fois, Léo.
Kiné du sport, rugbyman ici au CREC, c'est ça ?
C'est ça. Voilà. Modestement rugbyman, mais oui.
Et qui va donc bien débattre avec nous de rugby. Et puis le nouveau cette semaine, il est tout à ma gauche, Meimoana Mafutuna. Bonsoir, vous êtes ?
Bonsoir, je suis le coach du Canada Pacifique en tournée en Nouvelle-Calédonie.
Et vous êtes déjà passé sur la radio, vous êtes déjà venu nous voir.
Donc, je suis un enfant du pays.
Les auditeurs commencent à vous
connaître. D'ailleurs, j'ai besoin d'un kiné, là, pour les matchs.
On pourra négocier après l'émission. Voilà. Merci d'être avec nous tous les quatre ce soir. On va bien évidemment parler rugby encore ? Un peu de Jeux Olympiques aussi,
bon,
puisque c'était la fin.
On peut parler de rugby pendant 41 minutes.
Oui, Pierre Forest, je sais qu'on pourrait parler de rugby très longtemps avec vous.
Quand même.
Hein, un petit mot des Jeux avec l'équipe de France.
Il y a Olivier qui est là, ouais.
Pour faire plaisir.
Donc, cette émission, comme je l'ai dit, consacrée en grande partie au rugby et au tournoi Destination avec l'équipe de France qui continue son très beau parcours. Troisième match, troisième victoire. C'était la nuit dernière, il fallait se lever très tôt. Hein, 2h10 pour suivre France-Italie, 33-8 pour le 15 de France. Messieurs, Pierre Forest, je me tourne vers vous pour commencer. Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre ? Une équipe de France solide défensivement, qui a su profiter des bonnes occasions, qui a su faire le dos rond aussi quand il fallait ?
On a vu une équipe de France sérieuse, appliquée. Hein, elle n'a pas été brillante sur l'ensemble du match. Mais quand on avait tellement fait, pendant toute la semaine, de se méfier des Italiens, notamment ce match Italie contre l'Irlande, où ils avaient vraiment, comment dire, posé des grosses difficultés dans le jeu d'avant et surtout en première ligne lors des mêlées fermées, qu'on a vu quand même une équipe de France très appliquée pendant les 20-30 premières minutes, et après, ça s'est un peu débridé. On a senti que ça manquait de. Ça se relâchait un petit peu, et c'est ce qui a permis de garder les Italiens
à distance.
Et puis, je dirais qu'il y a aussi la deuxième partie de la deuxième mi-temps, les 20 dernières minutes, où là, on a assisté à un jeu un peu plus ouvert.
Avec ce carton jaune aussi pour l'Italie, voilà. Il y a eu les changements tricolores avec les finisseurs qui aussi ont apporté une belle pierre à l'édifice.
Il y a eu des changements aussi juste avant le match avec la blessure de Jalibert
remplacé par Ramos.
Troisième, comme vous l'avez dit, troisième match, troisième victoire, et voilà. Et on se rapproche.
Mais Mafutuna, vous voulez réagir justement sur cette victoire qui est encore une fois impressionnante des Bleus. C'est quoi ? C'est la facilité de l'équipe de France ?
Non, je ne dirais pas que c'est la facilité, mais je pense que Galtier a trouvé la bonne recette en intégrant des jeunes, en intégrant des moins jeunes et un peu plus d'expérimentés. Là où qu'on pêche un peu, c'est en première ligne où depuis l'absence de Winnie Antonio, on a un petit peu de difficulté à rééquilibrer un petit peu ce pack. Mais bon, on a des jeunes qui arrivent derrière. Je m'en fais pas pour cette année.
Alors, vous parliez de la première ligne qui n'a pas changé depuis, il me semble, sur les trois premières rencontres. Romain Bonnet, c'est une première ligne gros, marchand, Aldeguerri. C'est stable, c'est des joueurs qui se connaissent et qui commencent à avoir de l'expérience ensemble, on peut le dire.
C'est une première ligne quand même qui a fait ses preuves, qui a déjà joué beaucoup. On parle souvent d'Aldeguerri parce qu'il doit remplacer Antonio, que c'est quand même compliqué de trouver un bon pilier droit, mais je crois qu'il a plus de 30 sélections déjà. Donc, c'est pas n'importe qui. Maintenant, c'est vrai que moi, je trouve que le match contre l'Italie, en fait, on a joué la meilleure équipe qu'on a jouée depuis le début. Contre l'Irlande, on a déroulé assez facilement. Le Pays de Galles, il n'y avait pas une grande opposition. Et là, on avait une équipe d'Italie qu'on savait très solide devant, très solide en mêlée, qui nous a posé beaucoup de problèmes. 4 pénalités quand même, c'est pas rien. Et derrière, ils sont assez inventifs. Donc, je pense que c'est quand même un très bon match, un match sérieux, comme le disait Pierre. Il fallait quand même se sortir du bourbier. En deuxième mi-temps, on encaisse 0 points avec 20 très grosses minutes des Italiens. On fait le dos rond, on sort bien du camp, c'est très propre. Donc c'est quand même un match satisfaisant, je trouve. Et comme le disait Pierre aussi, on finit bien le match avec ce point de bonus offensif.
Ce point de bonus qui peut permettre, en cas de victoire bonifiée lors de la quatrième journée, donner le titre à l'équipe de France. Les Bleus peuvent être sacrés sans le Grand Chelem, peuvent être sacrés en cas de victoire bonifiée.
C'est plus l'objectif,
effectivement. Mais
en dehors de l'équipe de France actuellement qui est invaincue, il y a quand même, avec une défaite, il y a l'Écosse qui reste dans le coup et l'Irlande qu'on a déjà joué.
Mais prochaine rencontre, France-Écosse, on va y venir. Hein. Oui, mais France-Écosse, ouais. Si la France gagne 19 ou 20 points, l'Écosse ne peut plus revenir.
Oui, tout à fait.
Mais il y a encore un dernier match contre l'Angleterre, si on perd.
Non, mais si on perd. Mais
non, mais
Pierre, il est...
Je crois que Galtier, il a dit un mot juste là, j'ai regardé un petit peu après le match, son interview, il disait chaque match est à part. Donc on ne peut pas le comparer aux autres matchs. Et d'ailleurs, quand on regarde la composition de l'équipe, autant sur les deux premiers matchs, il avait fait une confiance à une deuxième ligne qui était très coureuse, hein, puisque c'est deux troisième lignes, Olivon et Guillard. Et là, autant il savait que le problème avec les Italiens, c'était le paquet d'avant et c'était la cage devant, comme il dit Michel, le 5 de devant. Il a changé carrément sa deuxième ligne et il a fait commencer à deuxième toulousaine avec Meafou qui, à cette occasion, a été l'homme du match.
Il a vraiment
été très bon. Donc, pour revenir à la question.
L'Écosse d'abord,
il faut gagner en Écosse. Hein. Il y en a deux
qui sera très très compliqué. On va venir à ce stade, cette ambiance aussi.
Il y en a deux qui connaissent très bien le rugby français, c'est la charnière. Hein. C'est Ben White qui joue à Toulon et l'ancien demi-ouverture du Racing, qui est d'ailleurs le capitaine.
Finn Russell,
qui connaissent très bien comment les Français y jouent. Donc voilà.
Oui, donc justement, Olivier Deniaux, c'est cette rencontre face à l'Écosse.
Elle est dans toutes les têtes, forcément, parce que c'est le prochain match. Mais moi, je suis tout à fait de l'avis de Pierre. C'est que Galtier, je pense, il prend les matchs un par un. Le viser, bien sûr, que l'ambition, aujourd'hui, je pense qu'il vise le grand chelem, les gars. Mais c'est surtout le prochain match qu'ils vont préparer, là. Hein. Donc, c'est dans 15 jours, je crois, là. Donc, ils vont bien régénérer, hein, parce que enchaîner les matchs de ce niveau, ça laisse des traces. Et le prochain match, c'est vraiment un par un qu'il faut prendre les matchs, de toute façon, à ce niveau-là.
Par contre, je
voulais quand même dire une chose, j'étais frappé par la vitesse et la vivacité des joueurs de l'équipe de France, notamment sur le premier essai, je crois, là où, le Barré, on sait qu'il est déjà rapide, mais enfin là, il a mis une cacahuète à l'Italien qui était derrière, là, parce que aller chercher le ballon
il joue bien le coup, quoi.
Ah oui, on joue sur les qualités des Français, mais là, vraiment, au niveau vitesse, on était au-dessus du lot encore une fois, hein.
Si je peux revenir sur cette histoire de Écosse-Angleterre. Avant que le tournoi commence, dans cette émission même, on parlait de finale face à l'Angleterre. On disait c'est le match à suivre, c'est le match phare de ce tournoi à destination. Visiblement, Romain Bonnet, ça l'est pas.
On ne sait pas. On verra comment on se comporte en Écosse. Et ensuite, les Anglais ont toujours à cœur, comme nous, on a toujours à cœur de les faire trébucher. S'ils peuvent nous faire perdre à Paris, je pense qu'ils s'en plairont pas. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le niveau actuel de l'Angleterre, et notamment le niveau contre l'Irlande, 42-21 à la maison, c'était pas flamboyant, quoi. Donc je pense pas que ce soit l'équipe qui va nous poser le plus de problèmes. Je pense que le match en Écosse, même si c'est une équipe sur courant alternatif, hein, on le voit, ils ont failli perdre en Écosse au Pays de Galles. Par contre, ils peuvent gagner en Angleterre. Enfin, c'est une équipe qui est sur courant alternatif, comme son demi d'ouverture Finn Russell. Donc je pense que c'est un match, si on le prend du bon bout, on ne peut que le gagner, parce que devant on est quand même beaucoup plus puissant et beaucoup plus dominant qu'eux. Maintenant, c'est un match piège, comme on aime dire. Et si on le prend pas, si on met pas les bons ingrédients, on peut vraiment se compliquer la tâche. Et derrière, on sait que les Écossais sont très, très, très bons.
Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux semaines de pause. Les joueurs qui sont convoqués ne seront pas rappelés en club, vont pouvoir continuer à s'entraîner, à se préparer pour cette rencontre face à l'Écosse. J'ai noté un peu, hein, sur les trois premiers matchs, il y a 20 joueurs qui ont été titulaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre sur 20 joueurs en 3 matchs? Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il faudrait plus faire tourner? Est-ce qu'on a l'habitude de voir ça? Est-ce que ça change un peu d'habitude? 10 qui ont débuté les 3 rencontres. 10 sur 15. Est-ce que Pierre Forest, c'est beaucoup, pas assez? Voilà, comment
Moi, je répondrai différemment. Je crois que l'équipe de France doit aussi tenir compte des intérêts des clubs. Là, quand on regarde les effectifs là actuellement de l'équipe de France, c'est basé sur évidemment le Stade Toulousain, l'UBB, Pau et Toulon. Toulon, ils en ont fourni 4 quand même. Donc, il faut qu'ils tiennent compte. Malheureusement, La Rochelle, par exemple, il y en a qu'un, un ou deux, je crois, qui étaient deux, troisième ligne. Et par contre, La Rochelle est en difficulté au niveau des clubs. Je ne dis pas qu'il fait son équipe en fonction de la situation des clubs, etc. Mais il y a un tel potentiel, hein, qui, d'ailleurs, on voit avec le jeune de Pau, là, qui joue depuis deux matchs, là, c'est extraordinaire, quoi.
Donc, on parlait de Broboirie. Voilà.
Il fait en fonction de la forme du moment et en fonction de l'adversaire. Là, basculer d'une deuxième ligne qui était très coureuse, composée de deux troisième lignes, il a fait le début du tournoi avec, et basculer sur une deuxième ligne typique d'un club en plus, où ils ont les automatismes, etc. C'est, voilà. Je ne réponds peut-être pas directement à votre question, mais il y a un potentiel, et je crois qu'il fait avec les forces et la forme du moment.
Messieurs, autour de la table, vous êtes d'accord avec les propos de Pierre Forest, Romain Bonnet,
Paul Dédonné ? Je pense que Fabien Galthié, il essaye, on est à deux ans de la Coupe du Monde maintenant, il essaye quand même d'installer son équipe, de ne pas changer à tous les matchs. Les changements qui ont été faits, ils se sont imposés. Les deux centres ont été blessés. Et les deux centres, du coup, de Pau, Broboiry et Gailleton, ont fait des très bons matchs. Donc maintenant, la question va se poser, qu'est-ce qu'on fait quant au retour de Moefana et éventuellement de Porter. On a aussi vu Pierre-Louis Barassi du Stade Toulousain qui a fait une bonne rentrée, toujours très énergique. Maintenant, il a aussi fait quelques changements. Il a fait sortir Damien Penaud du groupe. Il a fait rentrer Atis Ogbe qui a été très bon. Gaël Dréan, premier match, très bon en défense, très bon en l'air,
qui marque un essai pour sa première et qui offre le bonus offensif.
Pour l'instant, à Fabien Galthié, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Tous les choix qu'il a fait étaient les bons. Il a fait sortir Meafou au début, qu'on pensait un peu indéboulonnable. Il le fait revenir deux matchs plus tard avec son compère en deuxième ligne et ils font un match exceptionnel tous les deux. Donc c'est bien, on a des casse-têtes, on a un bon casse-tête pour faire la composition, mais je le trouve assez cohérent. Il ne change pas toutes les semaines pour essayer de donner du temps de jeu à un tel ou un tel. C'est bien, je pense que c'est bien de continuer comme ça, de faire sur la longueur. Et ça donne aussi de la confiance.
En ligne de mire, la Coupe du Monde.
C'est ça, en partie, et ça donne aussi de la confiance aux joueurs. Quand tu fais un bon match et que la fois d'après, tu es sorti parce qu'il y a un mec qui revient, bah, tu ne comprends pas trop. Là, c'est ça, mérite au meilleur du moment, comme le disait Pierre. Voilà.
Et justement, dans ce casse-tête, on va en profiter. On a la chance d'avoir avec nous Meimoana Mafutuna, qui est l'entraîneur du 15 du Pacifique, qui connaît bien la Calédonie, qui connaît bien aussi les Calédoniens. Dans tout ça, il y a des Calédoniens qui jouent, un peu plus certains, un peu plus que d'autres. Voilà, Mobaka, Neti, Moefana qui est blessé aussi. Voilà. Ces joueurs calédoniens, où est-ce qu'ils sont dans la hiérarchie ?
Les joueurs calédoniens, à partir du moment qu'ils sont au niveau en métropole, ils sont considérés comme des joueurs vraiment métropolitains. Ils sont vraiment dans la sélection, ils sont dans le moule. Je dirais, il n'y a pas de calédoniens, pas calédoniens. Là, ils sont vraiment dans l'équipe de France. Il y a un niveau qui est très, très élevé. Et je rebondis sur la question des 20 joueurs qui ont joué les 3 matchs. Je pense que Galthié prépare effectivement la Coupe du Monde, mais si on regarde un petit peu la situation des clubs, comme disait Pierre, effectivement, il avait enlevé Meafou et Flamand, parce que Flamand avait un problème perso, mais c'est juste pour piquer un peu. Mais il a déjà son équipe en tête. Et de donner à Guillard et le Toulonnais Olivan, c'est vraiment de leur donner temps de jeu et voir est-ce qu'ils vont tenir après sur la durée. Parce qu'en club, c'est pas du tout le même niveau non plus. On regarde en championnat, au niveau de classement. Lui, il va taper le plus haut possible. Il prendra les meilleurs au bon moment. Mais 20 joueurs, il a déjà son idée. Et les jeunes qui arrivent, Broboiry, tout ça, ils vont être là. Mais il y a toujours Barassi, il y aura toujours Moefana. Ceux-là, c'est eux qui vont être utilisés.
Indéboulonnables, on peut dire, qui sont là.
Mais il a besoin de voir le temps de jeu, voir faire du temps de jeu avec les nouveaux pour pouvoir intégrer vraiment la grande, grande équipe. Et puis avoir la meilleure équipe lors de la Coupe du Monde. Hein. C'est comme ça qu'il va faire.
Comme tu le disais,
c'est
son deuxième mandat à Fabien Galthié.
Oui.
Donc il sait déjà où il veut aller. Il intègre des nouveaux joueurs. Mais c'est vrai que son ossature, il l'a déjà. Après, quand il y a des ovnis, comme il dit, il faut les intégrer. Bielbiaré en est la preuve. À la Coupe du Monde, il n'avait jamais joué. Il est arrivé. Il est le joueur qu'il est maintenant.
24e donc... essai en 25 matchs, il me semble, quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'exceptionnel.
Et puis, il ne faut pas oublier Romain Tamac. Il va peut-être revenir aussi.
Aussi.
Ah oui. Donc, en concurrence, je ne sais pas si Lucu va revenir. Je ne sais pas. C'est du haut niveau. Hein. Dupont, il est en forme.
Souvent, la question qu'on se pose, c'est... Est-ce qu'on a de la chance d'avoir autant de joueurs ou est-ce que c'est plus la difficulté du cassette, forcément quand...
C'est toujours une chance, là. Je pense qu'aucun entraîneur ne se plaindrait d'avoir autant de bons joueurs. Maintenant, il faut réussir à gérer les égos ou je ne sais quoi.
Bien sûr.
Et au rugby, pour l'instant, gérer les égos, du moins Fabien Galthié, je trouve qu'il arrive à le faire.
Ils ont trouvé la bonne formule entre la Ligue et le rugby pro pour relâcher les joueurs pendant tout ce temps, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, les clubs, ils râlaient. Mais maintenant, les clubs, même avec les absents des internationaux, ils arrivent à trouver des doublons en faisant jouer des jeunes. Et c'est comme ça que ça augmente à chaque fois. Regardez les U20. Dans 3 ans, c'est les U20 qui vont être à la place des anciens.
On ne le dira jamais assez, mais le top 14, c'est la plus grosse compétition mondiale au niveau rugby, de championnat. Tout le monde va venir jouer. Et la fédération a eu le nez creux d'avoir imposé ce qu'on appelle les GIF, c'est-à-dire les jeunes issus de la formation fédérale, de faire figurer à chaque match un certain
un
nombre.
Un minimum sur chaque 8 match.
Et ce qui permet que quand il y a les doublons, on fait jouer ces jeunes en priorité et puis qu'ils prennent l'expérience. On le voit, les quelques noms qu'on a cités de Pau, il y a Gourgues aussi de Toulouse. Enfin, bref, je trouve que ça va bien et ça va dans le sens de l'intérêt de l'équipe de France.
Et justement, vous parlez de la jeunesse, un petit mot des jeunes des moins de 20 ans qui eux aussi, comme leurs aînés, se débrouillent très très bien. Trois matchs aussi, trois victoires.
Oui, tout à fait. C'est la même politique au niveau de l'esprit. Je pense que c'est l'esprit Galthié, tout ça. Parce que
il y a un suivi de ces jeunes qui, dans quelques années, vont succéder.
Et puis les coachs, ils sont complètement dans le plan de jeu de Galthié. Les jeunes, ils arrivent de U20 à l'équipe 1. Ils sont déjà rodés.
On voit Lenny Nouchi aussi, qui était en équipe de France U20, qui a tout gagné aussi avec l'U20, qui a tout gagné capitaine avec l'U20, qui se retrouve remplaçant, mais qui à chaque fois fait de belles rentrées.
Il est très bon.
On le note à chaque fois.
J'ai l'impression, comme tu disais, que ça fait un peu vision de club. Par exemple, les cadets, les juniors, ils jouent toujours de la même manière. Ils jouent toujours de la même manière que l'équipe senior.
Exactement.
Ils ont le même lancement de jeu, ils ont des entraînements collectifs. Et c'est vrai que l'équipe de France, on a l'impression que c'est ça, parce que les jeunes intègrent très facilement le groupe.
Tout à fait.
En rugby, il y a les structures, ce qu'on appelle les structures d'accès au niveau et les structures de haut niveau. Il y a ce qu'on appelle les académies. Et en tout et pour tout, je crois, il y en a 27 académies de polysport rugby. C'est-à-dire les meilleurs éléments qui s'appuient tous sur des clubs professionnels. Donc il y en a déjà 14 du top 14 et les 13 autres, 11 plutôt. C'est le pot des deux. Et il y en a deux qui échappent un peu à la règle. C'est l'académie de Nouvelle-Calédonie et de Wallis, l'académie du Pacifique. Et puis il y en a une, je crois, à Dijon. Donc l'académie, ça sert aussi aux jeunes de pratiquer une compétition qu'on appelle généralement Krabos. Krabos, c'est-à-dire c'est réservé aux 17-18 ans. Et au-dessus du Krabos, il y a un championnat national espoir, où là, tous les jeunes de U20, le vivier, il est dans le championnat espoir. Et c'est là où on constitue les équipes de France des U20. Et ensuite, c'est une détection fédérale. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'être en équipe de France jeune, puis senior.
Olivier Degnaud, ça fait rêver toute
Non, c'est une mise en place qui a dû prendre un certain temps et de la réflexion et de la planification, et c'est super important parce que l'esprit des joueurs de rugby, il est tel que, je vais pas dire qu'ils sont interchangeables les uns envers les autres, mais quand tu connais un système de jeu, c'est plus facile de t'intégrer, et Galthié, il possède comme ça un banc beaucoup plus étoffé, et c'est plus facile de faire entrer les jeunes. Et en plus, ça permet de tester, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à la Coupe du Monde de l'année prochaine, et puis de pouvoir les faire jouer sous pression, parce que ça, c'est aussi important d'être capable. Tu peux jouer dans ton petit cocon, dans ton club, tranquille, mais le jour où tu te retrouves en équipe 1, enfin en équipe de France, c'est quand même autre chose. Et tu vois un peu les réactions des joueurs sous pression. Et ça s'apprend aussi. Donc tu y vas un petit peu, puis après, si ça marche bien comme Bielbarré du premier coup, c'est tout bonus.
Et justement, il y a une réflexion que vous venez de faire sur les changements, l'adaptation des joueurs. On voit, il y a aussi des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, et c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe de France. On va pas tous les citer, mais il y a encore Ramos qui a joué 15-10 sur les trois premiers matchs. Atis Ogbe qui a changé aussi de poste. Ben, c'est ce qui fait aussi la force, Romain, de cette équipe de France, de pouvoir s'adapter.
Oui, après, dans le rugby, il y a toujours eu des joueurs assez polyvalents, mais c'est vrai que maintenant, notamment dans les matchs internationaux, on compose les bancs en 6-2, donc beaucoup plus d'avant que de 3 quarts. Donc on est obligé d'avoir 6 avant remplaçants et seulement 2-3 quarts, parce que l'impact physique est de plus en plus violent. Donc il faut plus d'avant, ce qui force en fait les 3 quarts à être polyvalents. Et donc un Ramos, il peut couvrir le poste de 10 et de 15 à très haut niveau. Atis Ogbe, qui est passé de l'aile à l'arrière, a été très bon. Louis Bielbarré peut faire pareil. On a des centres qui peuvent jouer à l'aile. Et c'est vrai que du coup, on privilégie des profils, notamment chez les remplaçants, on privilégie des profils qui sont polyvalents, qui peuvent couvrir plusieurs postes. et des joueurs qui sont très spécialistes, si c'est pas les meilleurs, eh ben ils sortent du banc. Par exemple, Damien Penaud. Alors là, je pense que c'est plus pour le Piqué qui est sorti du groupe, mais s'il était polyvalent, je pense qu'il aurait été sur le banc, par exemple, pour couvrir peut-être le poste de centre, le poste d'ailier. Aujourd'hui, je n'ai que ailier, donc voilà. C'est la polyvalence dans le rugby, ça aide un petit peu, et notamment chez les avants, on voit Michael Guillard qui peut jouer troisième ligne, qui peut jouer deuxième ligne.
Olivier, pareil.
Mais alors ça aide, on le dit, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour l'équipe de France. Mais est-ce que les autres équipes, on va parler de celles qui font ce tournoi destination, ont le même vivier, le même potentiel d'interchangeabilité de joueurs sur à l'arrière, à l'avant? Est-ce qu'on est sur la même chose qu'en équipe de France, ou est-ce que c'est une particularité française d'arriver à avoir autant de joueurs qui peuvent changer comme ça sur le terrain?
Ben, je pense que depuis l'ère Galtier, où
il a fait développer.
Où il a fait en sorte qu'on prenne un peu plus en compte, en considération, les jeunes, et monter en plus des sections de performance dans tous les clubs. Et à partir de là, c'est du très haut niveau en ce moment. Il y a des jeunes de partout, je pense même dans les autres nations. Mais ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, on en parlait tout à l'heure, il y a un plan de jeu qui est mis en place des plus jeunes jusqu'en équipe 1. Donc derrière, ils ont tous la même politique. Après, je dirais que là, actuellement, avec l'équipe de France, il y a 3-4 joueurs où il faut vraiment, qui font vraiment la colonne vertébrale, entre Dupont, Ramos. Après, c'est que des Toulousains, je dirais, il y a Marchand. Mais tout se joue autour d'eux. Ramos, qui est très spécialiste, très rigoureux surtout, celui qui ne comprend pas son jeu, il va pas pouvoir jouer, parce que c'est des joueurs qui jouent avec les yeux fermés. Dupont, c'est pareil. Dupont, si on n'accepte pas sa façon de jouer, on ne se met pas à son niveau, ben forcément, les mecs vont être perdus. Et Marchand, avec tous les gros, le meneur qu'il est... Bon, voilà. Après, il y a d'autres joueurs, mais je pense que c'est l'ossature de Galtier. Il y a bientôt Monvaca qui va arriver aussi.
Hein, vous parlez justement de cette ossature, de ces joueurs phares de l'équipe de France, du 15 de France. J'ai regardé la dernière vidéo de la FFR qui parlait de la préparation justement de cette rencontre face à l'Italie. Et on voit un Thomas Ramos très impliqué, toujours proche du staff, dans toutes les réunions, aller chercher les infos, les redonner aux coéquipiers. Voilà, c'est ça aussi son rôle d'ancien, peut-être, d'expérimenter, d'être un peu partout sur le terrain, mais pas que.
Ouais, je pense que c'est pas évident d'entraîner un Ramos. Hein. Ah ouais. Et il le dit, Hugo Moula. Bon, j'en ai discuté un peu avec lui, mais c'est quelqu'un qui dort avec le rugby, se réveille avec le rugby. Même, il donne même des solutions à Hugo, alors que Hugo Moulin, mais tranquille, vous voyez. C'est un futur entraîneur, je pense. Hein. Je sais pas, peut-être plus tard, il va entraîner, mais c'est quelqu'un qui doit être difficile à entraîner quand même. Il a un caractère quand même de fou. Hein.
Mais c'est sûr que c'est un leader dans le jeu, là, maintenant, il s'épanouit de plus en plus. Et je pense que quand il est derrière Cotula, il parle beaucoup, il parle tout le temps. Donc oui. c'est énervant pour les adversaires, ça peut être aussi pénible qu'en tant que coéquipier, quand on a un qui te parle tout le temps, mais c'est pour le bien de l'équipe. C'est vrai que je pense qu'il rassure ses coéquipiers. Je me souviens, le match contre l'Irlande, un ballon haut, une chandelle à 5 mètres de la ligne, il la prend, marque, il calme le jeu, tout le monde revient. Quand t'as un gars derrière qui peut faire ça, ouais, tu respires plus facilement. Ah, donc, c'est quelques joueurs comme ça, tu l'as dit, Dupont, Marchand, c'est des leaders d'abord dans le jeu, d'abord dans l'exemple, et ensuite qui prennent la parole. Et là, ce groupe, ça fait 7 ans, 8 ans qu'ils évoluent ensemble, donc maintenant... Il gomme petit à petit, je trouve qu'on arrive à gommer les petites imperfections qu'on a. On a vu contre l'Irlande, on fait un match extraordinaire, 4 pénalités, c'est du jamais vu. Là, on fait quand même des très bons matchs. Je pense honnêtement que sur ce tournoi, si on ne fait pas le grand chelem, ce serait, alors, de là à dire un échec, je ne sais pas, mais vu le niveau des autres équipes, ça nous permettrait de marquer un grand coup pour s'affirmer comme vraiment une équipe qui ambitionne de gagner la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui... L'Angleterre, on l'a vu, n'est pas au top, top niveau. L'Irlande non plus. L'Écosse est sur courant alternatif. Si on arrive à battre les deux dernières équipes, on s'affirmerait vraiment comme les favoris de l'hémisphère nord et potentiellement des favoris pour la prochaine Coupe du Monde.
Pierre Forest, avant de marquer une première chose.
On a plus de chances qu'on sait les années paires, comme c'est le cas cette année, puisqu'on reçoit 3 fois et on se déplace 2 fois seulement. Voilà.
C'est ce qui fait aussi... La force de cette équipe de France à domicile, à l'extérieur, on espère que ça sera la même chose le week-end, enfin dans 2 semaines en Écosse. On va marquer une pause dans cette émission formidable qu'on continuera dans quelques instants. Pierre, c'est à vous pour lancer la...
RRB, la pub. mais ils ont vraiment décidé de gâcher notre barbecue, hein. Ils se sont donné le mot ou quoi?
Relax, c'est justement pour ça que j'ai pensé à Vap, l'anti-moustique qui marche vraiment.
Ah, le silence, c'est magique. Les tortillons aux prises anti-moustique Vap, disponibles dès maintenant en magasin.
Envie de voyager? Le financement, c'est Socalfi. Un mariage en vue? La sérénité, c'est encore Socalfi. Des travaux à lancer? La solution, c'est toujours Socalfi. Parce que chaque projet est important, Socalfi finance toutes vos envies. Contactez-nous dès aujourd'hui au 448 448 ou sur notre site socalfi.com. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et on retrouve tout de suite Léo Fichou et ses invités pour la suite de la semaine Sportmidable.
Une semaine Sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et mes invités m'ont rappelé qu'on n'avait pas encore donné les résultats des autres rencontres dans ce tournoi destination. On a bien évidemment parlé de l'équipe de France face à l'Italie, 33-8. Mais le Pays de Galles recevait l'Écosse. On a dit que c'était un match serré jusqu'au bout. Les Gallois qui étaient devant jusqu'à une bonne partie de la rencontre, qui sont inclinés 23-26 face à l'Écosse. Et puis l'Irlande qui a roulé sur l'Angleterre 42-21. Ce qui fait que l'équipe de France est donc en tête avec 15 points. L'Écosse 11, l'Irlande 9, l'Angleterre et l'Italie 5 points. Le Pays de Galles 1 point. Et puis on continuera donc ce tournoi destination dans deux semaines. Irlande, Pays de Galles, Écosse-France, Italie-Angleterre. On vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour parler à nouveau de ce tournoi destination. On va nous parler encore une fois de rugby, mais en métropole cette fois avec le championnat de France, top 14. Il y avait un match en retard ce week-end et une surprise, belle, grosse, petite surprise, Pierre Forest, l'USAP qui s'impose face à la section paloise.
C'est pas trop une surprise pour moi, hein. Évidemment, dès le départ, c'était le deuxième du championnat à Pau contre l'avant-dernier, et donc qui doit jouer normalement le maintien. Mais entre-temps, il y a eu quand même des changements à l'USAP, notamment avec le recrutement d'un nouveau manager, hein, qui a fait ses preuves notamment en équipe de France, hein, déjà à l'époque, et surtout au Stade français. Donc voilà, donc...
Pas de surprise. Mais jusqu'où peuvent aller les Perpignanais? Est-ce qu'il est possible pour eux de revenir sur l'aviron bayonnais? 18 points de retard, je vois hocher la tête Olivier Degnaud, non?
Bah 18 points, il ne reste pas énormément de matchs, hein, je crois.
On est à la 18e journée, ouais. Donc
il en reste 14 8. Sur 26, il en reste 8, ouais. Bah voilà, tu fais le calcul.
18 points.
Il faudrait que les autres perdent dehors.
Ils
ne sont
pas très bien, le coach qui commence à...
Bayonne, le Stade Rocher, le Loup, hein, ils sont 37 et 36 points.
Perpignan, en plus, l'arrivée de Laurent Labitte avec son staff a fait venir aussi quelques joueurs expérimentés, que ce soit le Montferrandé, là, le Fidjien qui était déjà mais qui jouait pas trop. Mais là, il commence à apporter. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer.
En dehors de Montauban qui est là et qui est mal parti, je pense que entre la 13e, 12e, 11e, tout est possible.
Il y a Mutoga qui joue à Montauban quand même.
Alors, en bas du classement, tout est possible, et en haut aussi, mis à part le Stade Toulousain qui a 62 points, derrière la section paloise 51, Bordeaux 50, Montpellier 48, 46 pour Clermont, 45 le Racing, 44 le Stade Français, 43 Toulon, 41 Castres, c'est très serré, 10 points entre le 2e et le 9e, en deux rencontres, tout peut basculer, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce championnat de France. Romain Monnet, les 6 premiers qualifiés, ça, voilà, c'est...
Le top 14, c'est toujours comme ça, hein. Je crois que la dernière journée, entre le 3e et le 10e, on peut toujours, ça se joue à un essai. Là, du coup, ce qui est très intéressant avec ce match, c'est que Pau, du coup, qui était 2e, perd ce match, et se retrouve à 1 point de Bordeaux, qui revient bien avec des internationaux. On sait que Bordeaux, c'est une équipe qui, quand même, depuis des années maintenant, joue le haut du classement. Et le prochain match, la semaine prochaine, c'est Pau-Bordeaux, justement. Donc, ça va nous offrir un beau duel pour la deuxième place avec Pau, qui, avec tous ses néo-internationaux, je pense, aura peut-être un peu plus de mal que d'habitude, vu qu'ils ne sont peut-être pas habitués à gérer ces périodes de doublons comme les autres clubs de top 14 qui fournissent beaucoup d'internationaux.
Oui, Pau-Bordeaux, et il y aura aussi un très beau Montpellier-Racing, 4e contre 6e. Donc déjà là, il peut y avoir déjà du changement entre la 2e et la 6e place. Voilà, on va suivre au fur et à mesure, et bien évidemment, ce top 14. On continue cette émission en allant du côté de l'Italie, non pas pour parler rugby, mais pour parler Jeux Olympiques. Ça y est, c'est la fin de ces JO de Milan-Cortina. Olivier Degnaud, vous avez bien suivi ces Jeux Olympiques.
Ouais, j'ai pas mal regardé,
très plaisant.
Tout ce qui est olympique, l'hiver, l'été, je regarde, puis en plus je regarde un peu toutes les disciplines. Ben, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la France, qui avait programmé comme ambition d'être dans le top 5, finit 6e, donc à une place de ce qu'ils avaient prévu. Bon, record de médailles pour l'équipe de France, sachant 23 médailles
On va rappeler le record, on était à 15 en 2014 15, et 2018. Voilà.
Bon, sachant qu'il y a un peu plus d'épreuves qu'auparavant. Bon, après, on peut remercier quand même le biathlon qui a fait 13 médailles, je crois, et notamment
13 sur 23, 6 en or sur 8.
Le ski de fond aussi qui a apporté son lot de médailles. Et puis voilà, quoi. Enfin, après, on voit que la Norvège, fidèle à sa réputation, fait 41 médailles avec 18 en or, ce qui est énorme. Là, ils ont un peu dominé, notamment ils ont un skieur.
C'est le même homme avec Clébo, skieur de fond.
Ils ont fait 6 en or. C'est énorme.
Il remporte toutes les courses sur lesquelles
il fait 6 courses, il gagne 6 fois.
Ça fait quelques JO qui gagnent.
Oui, bien sûr. Donc voilà, ils savent déjà qu'ils peuvent miser dessus. Bon, pour l'équipe de France, là où on est déçu, c'est que dans les sports, je dirais historiques, comme le ski alpin, on fait qu'une médaille
en argent,
et c'est vrai que malheureusement...
Alors qu'il y avait des chances potentielles quand on a vu le départ avec la jeunesse aussi, et il y a eu cette polémique aussi sur le ski alpin, on peut le rappeler, avec seulement 8 Français sélectionnés, 8 hommes, alors qu'il y en avait une dizaine, une quinzaine qui pouvaient potentiellement... être intégré dans l'équipe de France.
Oui, mais c'est par rapport au ranking. Enfin, il y a toujours une histoire. Il y a un certain nombre de sportifs que tu peux sélectionner dans chaque discipline. Et bon, là, il y avait une limite. Il a fallu choisir. Les sélectionneurs ont fait leur choix. Après, bon, on sait ce que c'est que le slalom, que ce soit le slalom, le géant. Ça se joue à pas grand-chose, des fois.
Il n'y a pas eu un record de médailles olympiques, non? Il n'y a pas un Français qui a battu
Quentin Fourcade. Quentin Fillon-Maillet, qui est le Français.
Mais toujours pareil, en biathlon. C'est toujours le biathlon qui ramène. C'est sûr que la France a misé, enfin, en tout cas au niveau du biathlon, tout est structuré, je dirais, pour que ça se régénère. T'en as un qui arrête, t'as Fourcade, Martin Fourcade qui arrête. Tout de suite
le frère de Martin Fourcade qui d'ailleurs est dans le staff de l'équipe de France de biathlon, Simon, qui a été félicité par l'ensemble des biathlètes, parce que c'est aussi un staff, on n'en parle peut-être pas assez, mais sur le biathlon, il y a l'entraîneur physique, l'entraîneur au tir. C'est quand même quelque chose de...
Ils ont été chercher les meilleurs coachs dans chaque discipline, puisque, faut rappeler que le biathlon, t'as vu ce qu'ils te font, mais faut tirer en état de fatigue, puisque tu récupères pas. Aussi, il y a les préparateurs au niveau du ski, parce que c'est important le matériel dans ce genre de discipline, donc tout est...
L'entraîneur, et d'ailleurs, en parlant de staff, il y a l'entraîneur norvégien qui quitte la sélection norvégienne et qui devrait... s'engager avec l'équipe de France. Donc c'est aussi un signe que le biathlon français attire.
Les prochains JO, c'est en France.
Les prochains JO sont en France.
Sachant qu'on a les prochains JO en France. Là, j'ai vu les Italiens qui font 4e, donc ils sont aussi grimpés dans la hiérarchie. Je pense que l'équipe de France. C'est pour ça que dans 4 ans, le home advantage peut être aussi bénéfique à cette équipe de France. Mais il faut vraiment bien le préparer, le home advantage, de façon à ce que la pression ne soit pas trop importante sur les épaules des sportifs. Mais a priori. Mis à part
les biathlètes, on peut essayer de voir un peu les autres sports. Il y avait le ski de randonnée, je vais dire, mais c'est
ski alpinisme
qui est
une
nouvelle discipline qui allie un peu de course à pied, de ski en montée, de ski en descente. C'est plaisant à voir.
C'est très plaisant à voir. C'est très très télégénique et je crois qu'ils vont encore rajouter une autre discipline une autre épreuve dans cette discipline aux Jeux de. En France
en 2030.
Parce que ça va être un peu sur plusieurs endroits à la fois, comme là. Moi, il y a une discipline qui me passionne. J'ai regardé le bobsleigh hier soir, mais si, je sais pas, vous avez vu le skeleton. Le skeleton, c'est la luge où vous avez la tête première, et vous descendez, la tête, elle est, je crois, à 30 cm du sol.
Je sais pas combien il faut.
Et vous descendez à 130 km/h. Donc, je crois que les mecs, il n'y a rien. Et tu diriges, tu vas à droite avec les pieds. Ça, c'est
oui, on voyait les chaussures des athlètes à la fin.
Et ça, c'est une discipline passionnante. Et on voyait les caméras, là, il y a même des drones qui suivent dans les couloirs. Bon, et ça, non, ça
c'est,
vrai que
c'est l'occasion aussi, ces Jeux Olympiques, de découvrir
des disciplines.
Le ski acrobatique, j'ai plus le. Oui, c'est snow.
Le ski cross aussi.
Ski cross, voilà. Bon, les Français sont un peu pleins de la piste qui n'était pas assez.
C'est toujours pareil, c'est ce que je disais la semaine dernière. On se plaint, la piste, elle n'est pas bonne, elle n'est pas assez dure.
Ça va pas assez vite.
Ça va pas assez vite. Et d'ailleurs, on est habitué à partir devant, et là, on se fait doubler à la fin. Tu changes de stratégie. Enfin, je veux dire, c'est un truc. Ils ont eu la maquette de la piste quelques temps auparavant, mais ils n'avaient pas calculé, apparemment, la difficulté de la piste. Alors, bon, ben, voilà.
Ça reste quand même des Jeux Olympiques un très bon bilan. Romain Bonnet, non
Moi, je pense que c'est un très bon bilan. On a battu le record, oui. Mais le biathlon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on voit qu'à part en ski de fond, notamment Mathis Desloges qui ramène 3 médailles, dont une avec le relais, le reste, on s'attendait un peu au ski alpin. Clément Noël qui était champion olympique, une seule médaille en ski alpin, Super G, Roman Miradoli. Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait une polémique avec les quotas, seulement 8 hommes. Bah, au final, les 8 hommes,
oui, mais voilà, justement,
on les a pas eu. Donc, est-ce que plus ça aurait fait quelque chose? Je ne sais pas. Donc voilà, le ski alpin, c'est un peu comme au JO d'été, l'athlétisme. C'est pareil, en athlétisme, on repart toujours bredouille. Heureusement qu'on a ce biathlon où je crois qu'il y a une seule course sur tous les JO où on ne ramène pas de médaille en biathlon.
Chez les hommes, il me semble que c'est la...
C'est la poursuite féminine, je crois.
Poursuite féminine.
Ouais. Et voilà, après, on attendait aussi, tu parlais du snowboard et du ski cross, où on est très bon, très performant. Alors voilà, problème de piste, polémique, tout ce que tu veux. En attendant, on ne ramène pas de médaille. Donc, je trouve le ski alpin et le ski et le snowboard cross, c'est les deux points un peu de ces Jeux Olympiques côté français.
Peut-être pas oublié, mais à travailler pour les prochains chez
ouais,
en France.
D'autant plus que le ski cross avait fait une option pour sa préparation terminale de le faire au soleil. Je ne sais plus où ils étaient. Je me demande s'ils n'étaient pas aux Canaries ou un truc comme
ça. Sont partis aux Canaries.
C'est ça, ils étaient aux Canaries. Ce qui était étonnant,
ils sont venus faire la cérémonie d'ouverture, ouais. Il me semble. Ils sont partis aux Canaries pendant une semaine en collectif.
Pour se retrouver, pour refaire un travail de groupe, se souder et être en manque au moment où ils arrivaient, être en pleine bourre, ça n'a pas marché. Moi, je trouve ça très étonnant.
C'est vrai que ça n'a pas été très médiatisé, mais ça a été expliqué par les sportifs.
Ils ont réussi à le faire valider auprès du CNO, mais je ne vois pas trop. Ils assument leur responsabilité, mais c'est un choix qui m'étonne quand même.
Un petit coup de gueule avant l'heure. On peut dire ça comme
pour
ça.
Pour moi,
ouais.
C'est un petit coup de gueule. Ouais, si on veut. Ouais.
Parce qu'il va être l'heure de passer au coup de cœur et coup de gueule, si vous en avez aussi. Qui veut commencer? Qui veut se lancer en premier? Olivier Degnaud.
C'est pas un coup de gueule ou un coup de cœur. Enfin, c'est un coup de. Je sais pas. C'est une émotion. Je pense à la personne qui s'est fait attaquer par le requin en pratiquant une activité sportive. Mmh. Donc voilà, simplement une petite pensée.
Un hommage à ce
d'émotion,
monsieur.
Un hommage. Ouais,
on en parlera dans notre journal à 17h45.
Voilà.
Bon. Encore une fois, voilà. On pense à sa famille aussi.
À sa famille, bien sûr. C'est pour ça, ouais, tout à fait. Voilà.
Merci pour ce message. Romain Bonnet.
Coup de cœur. Moi, je suis. Je suis à fond dans le rugby, donc je vais souligner la performance de Méafou, comme on l'a dit tout à l'heure, qui avait été sorti du groupe, ou du moins remplaçant, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau et qui a fait 80 minutes. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le rugby, quand on fait 150 kilos, faire 80 minutes au niveau où il l'a fait, je crois qu'on ne l'a pas vu souvent dans un match d'une telle intensité. Donc voilà, content pour lui. Moi, je suis toulousain, donc doublement content et content pour l'équipe de France surtout.
Il a été récompensé, élu homme du match, on le rappelle. Je me tourne du coup à ma gauche, puisque les deux premiers, Olivier Denon, Romain Bonnet, étaient à ma droite. Pierre Forest, votre coup de cœur du soir.
Je vais rester dans le rugby et puis peut-être un coup de cœur, même s'il est à ma gauche, là, Michel, mais un coup de cœur au 15 du Pacifique qui est venu nous rendre visite. Bon, ils ont des missions militaires, paramilitaires, etc. Mais je crois que c'est une bouffée d'oxygène pour le rugby calédonien parce que voir débarquer une équipe de 15, je crois qu'on n'en a plus vu depuis quelques années parce que c'est très coûteux, c'est très cher. Et donc, pour une fois qu'on a un 15 qui peut faire jouer un peu les Calédoniens, donc il y a deux matchs samedi contre le Mondor, champion de Calédonie, et ensuite contre la sélection de Calédonie. Donc,
qu'on suivra avec grand intérêt sur Radio Rythme Bleu, bien évidemment.
Coup de cœur pour le 15 du Pacifique.
Merci beaucoup. Et puis, du coup, Monsieur l'entraîneur du 15 du Pacifique, Mimouana Mafoutouna. Ouais.
Moi, j'ai un coup de cœur parce que je suis content de revenir au pays, en fait. Hein. C'est ça, le coup de cœur. Et puis, le moment de partage qu'on va avoir pendant ces deux matchs-là et toutes les rencontres qu'on va avoir avec les enfants d'école de rugby, les féminines, le RSMA Koumak, le Province Nord et ainsi de suite. Donc, moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Heureux de faire du bien et surtout, partage.
Et... si je peux me permettre, un coup de cœur qui a été partagé par de nombreux Calédoniens déjà qui vous ont croisé dimanche.
Oui.
Pour un bel événement, dimanche matin.
Oui, tout à fait.
On c'était du bled de rivière salée, c'est ça.
Voilà. Trop petite l'église.
L'église n'était pas assez grande pour accueillir.
Oui, il y avait trop de monde, il y avait du monde dehors. Mais après, bon, nous on vient, on fait du bien, puis on repart. On vient se ressourcer, on repart.
Et vous laisserez une belle image du 15 du Pacifique en Calédonie. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus une nouvelle fois ce soir pour cette émission formidable qui touche à sa fin. On va laisser la place à Léana Colombo pour Info Soir. Belle soirée à vous.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.